7h-10, il souffle comme un vent d'ailleurs. On part au Népal avec vous, Anthony Bélanger, où une déesse vivante en remplace une autre.
Alors voilà, on les appelle ces déesses vivantes des Kumaris. Et effectivement, le 28 septembre, l'une d'entre elles a pris sa retraite pour laisser sa place à une nouvelle incarnation de la déesse hindoue Taleju. Au Népal, il existe une douzaine de ces déesses vivantes. Le principe, c'est qu'une fillette, écoutez bien, une fillette d'environ 3 ans, est choisie par des moines hindouistes, après avec l'autorisation de ses parents bien sûr, pour être ensuite emmenée et isolée. Seules les plus importantes des Kumaris, une poignée d'entre elles, ont un traitement spécial. Celles-là ne peuvent sortir et vues que 13 fois par an.
C'est barbare comme pratique religieuse.
Bah, oui, enfin, d'abord, il faut savoir qu'elles sont très bien traitées, hein, ces petites filles. Hein. Elles sont habillées, maquillées, adulées, évidemment, ouais, enfin, impeccablement nourries. Voilà. Mais bon,
bonjour l'enfance.
Voilà, exactement. Lorsque la Kumari royale, par exemple, fait une de ses 13 apparitions, elle est littéralement portée par des moines hindouistes. L'idée, c'est que jamais les pieds divins de la Kumari royale ne soient touchés par le sol. Enfin, vers ses 12 ans, ces Kumari royales prennent leur retraite et sont rendues à leurs parents pour être aussitôt remplacées par de nouvelles fillettes. Le 28 septembre donc, Matina Chakia est sortie du couvent avec le titre prestigieux de Kumari royale à la retraite et a donc été remplacée par la petite Trishna Chakia, et c'est reparti pour une dizaine d'années.
Et personne ne s'oppose à ça.
Bien sûr que si, des associations locales ont déjà essayé d'en finir avec cette institution, mais la Cour suprême locale a jugé qu'il n'y avait ni travail déguisé d'enfant ni maltraitance. C'était en 2008. La seule chose qui a changé, c'est que les Kumari, toutes déesses vivantes qu'elles sont, vont à l'école 3 heures par jour. D'ailleurs, Matina Chakia, la déesse vivante népalaise à la retraite, a repris sa scolarité dès hier et c'était à Katmandou.
Alors, on part rapidement pour la Suède. Cette fois, encore une histoire de tombe viking, Anthony.
Oui, encore une. J'adore les tombes vikings. Une nouvelle tombe de femme qui passionne les Suédois en ce moment parce qu'on y a retrouvé de la soie, figurez-vous. Depuis quelques jours, on a enfin décrypté les ornements de cette tunique de soie, ce qui a permis de démontrer que les vikings commerçaient avec le Moyen-Orient. Alors, la surprise a donc été totale lorsqu'on s'est rendu compte que ces ornements étaient en fait des broderies en arabe. On y distingue les deux mots Ali et Allah. Alors évidemment, ça change tout. Une des hypothèses, et qui est assez troublante, est simple, c'est que dans le Coran, vous savez, il est écrit qu'au paradis, on est habillé de soie. Et si cette viking était en fait musulmane, cette hypothèse n'est pas du tout stupide, elle pourrait être vérifiée. Et ce serait en tout cas une bonne claque aux néo-nazis, vous savez, qui avaient fait des vikings, des héros ariens, vierges de toute culture étrangère.
Quel pied de nez historique. Merci Anthony Bélanger.